RFI, 6h44, en temps universel. Et nous sommes au Japon ce matin, à la veille du début de l'exposition universelle d'Osaka. 158 pays réunis jusqu'à la mi-octobre dans la troisième plus grande ville du pays, avec un air de déjà-vu. En 1970, déjà, Osaka avait accueilli l'exposition universelle avec un succès considérable, un nombre record de visiteurs, près de 65 millions, et des louanges dans le monde entier en raison de sa qualité. 55 ans plus tard, l'ambiance est tout autre. Dans l'archipel, cette fois, pour beaucoup de Japonais, l'heure est à l'indifférence, voire au mécontentement. À Tokyo, Bruno Duval.
Les enquêtes d'opinion le disent et le répètent depuis des mois. 3 Japonais sur 4 n'ont aucune intention de se rendre à cette exposition, qui n'intéresse pas 65% des sondés, à l'image de cet Tokyoïte.
Pour être honnête, cet événement à venir me laisse assez indifférente.
Jamais personne ne m'a parlé de cette exposition, ce n'est pas un sujet de conversation pour les gens.
En 1970, l'exposition a fait l'unanimité et marqué les esprits. Je m'en souviens bien, le pays a vécu un moment magnifique. Mais aujourd'hui, on ne sent pas du tout un tel engouement.
Visiblement, pour l'heure en tout cas, cette exposition universelle ne passionne pas grand monde au Japon. La prévente des billets d'entrée l'a illustré. Les organisateurs espéraient en écouler 14 millions avant même le début des festivités, mais à ce jour, moins de 9 millions ont trouvé acquéreur. Car dans le pays, l'unanimité n'est pas de mise face à cet événement, comme cela avait été le cas il y a 55 ans. Beaucoup de gens s'y opposent, comme ses habitants de la capitale.
La mascotte de l'expo est sympa, mais franchement, je n'ai jamais compris pourquoi on dépensait autant d'argent pour un tel événement. Il me semble qu'il y a d'autres priorités.
Ça va coûter beaucoup plus cher que prévu, parce qu'on nous a menti à l'époque ou parce que cela a été géré par des incompétents. Il faudrait qu'on nous l'explique.
Je suis totalement opposée à cette exposition, car si elle s'avère déficitaire, comme les Jeux Olympiques de Tokyo il y a 4 ans, c'est nous, les contribuables, qui allons à nouveau devoir payer l'addition.
L'aménagement du site coûtera plus d'un milliard d'euros, soit près du double de l'estimation initiale qui avait été faite en 2017. En raison de l'inflation, de la hausse du prix des matériaux de construction notamment. Quant aux dépenses d'exploitation, plusieurs centaines de millions d'euros, elles ont crû de 40%. Le secteur privé paiera un tiers de l'addition finale, mais les deux tiers restants seront à la charge des pouvoirs publics, du gouvernement central ainsi que de la ville et de la région d'Osaka. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Japonais dénoncent à la fois l'ampleur des budgets consacrés par les autorités à cette exposition et l'envolée de son coût. Et en la matière, le pire est peut-être à venir, car les dépenses d'exploitation sont censées être couvertes à hauteur de plus de 80% par les recettes provenant de la vente des billets d'entrée et des produits dérivés. Donc l'événement basculera dans le rouge si le grand public n'est pas au rendez-vous. Or, au gouvernement y compris, on reconnaît que l'objectif initialement fixé ne pourra probablement pas être atteint, à savoir accueillir 28 millions de visiteurs. Bruno Duval, Tokyo. RFI.
Notre reportage international au Japon à retrouver sur RFI.fr.
RFI à Tamatave, 92 FM.
C'est un projet aussi emblématique que controversé à Madagascar, voulu par le président Ange Radzohène, la première autoroute du pays entre la capitale, Antananarive, et le principal port du pays, Tamatave, est présenté par les autorités comme un levier essentiel de développement. Mais début mars, 110 organisations ont alerté sur la situation dramatique dans laquelle les travaux plongent des milliers de familles expropriées. Les paysans témoignent sur place des conséquences de ce projet sur leur vie. C'est un reportage de Guilhem Fabry.
Depuis son jardin, Madeleine Razavinjamiadana, 74 ans, observe inquiète le balai des bulldozers en train de remblayer les rizières en face de chez elle. Dans sa commune d'Ambouimangarouve, à une quinzaine de kilomètres au nord de la capitale, personne n'est venu l'informer du tracé de l'autoroute. Mais elle en est convaincue, ces parcelles vont être détruites car elles se trouvent à proximité immédiate du chantier.
Jusque-là, les terres nous permettaient de vivre dignement. La scolarisation des enfants en dépendait. Maintenant, nous allons être démunis comme les sans-abri qui sont en ville. Nous ne profiterons pas de cette autoroute parce que nous n'avons même pas les moyens d'aller à Tamatave. Ce projet ne profitera pas au monde rural.
À quelques kilomètres de là, d'autres paysans ont déjà perdu leurs champs et leurs rizières il y a 2 ans. Ils affirment avoir déposé des demandes de compensation, mais l'État n'est pas encore revenu vers eux. Anjanaïvo Randimbisson est père de 4 enfants.
Beaucoup de choses ont changé ici depuis qu'on a remblayé nos terres. Nous devons maintenant cultiver sur les plaines, mais elles sont beaucoup moins fertiles. Avant, nous pouvions gagner 200 000 ariars par semaine. Mais aujourd'hui, ce revenu a été divisé par 10.
Au marché local, le riz et les légumes sont devenus plus rares, entraînant une hausse des prix.
Ce projet d'autoroute a un impact sur notre santé physique et mentale. Nos enfants font face à une insécurité alimentaire grandissante.
Après avoir été exproprié, il a décidé de participer lui-même au chantier pour subvenir aux besoins de sa famille. Contre 10 000 ariars par jour, le constructeur égyptien Samkret l'emploie ponctuellement pour planter du gazon le long des talus de la future autoroute. Cette infrastructure, symbole de modernité, va stimuler le secteur industriel et créer des milliers d'emplois, promettent les autorités. Les paysans affectés seront indemnisés et accompagnés pour développer de nouvelles activités, assure le maire d'Amboui-Mangarouv, Cédéra Günther Ratzaounarivou, membre du parti présidentiel.
J'ai expliqué à la population que si votre terrain est concerné par l'autoroute, on peut demander au ministère de l'élevage, par exemple, de promouvoir l'élevage de poulets de chair, faire de l'aquaculture, en fait, diversifier leurs revenus. Donc, on cherche d'autres moyens pour essayer de compenser leurs pertes.
Début mars, 110 organisations de la société civile ont demandé au président de suspendre les travaux, le temps de consulter les communautés paysannes concernées. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Et Antananarive, il est 9h50. Et ce matin, notre grand invité Afrique est un artiste et photographe malgache qui expose pour la première fois ses œuvres à Paris. Riza Soul, photojournaliste depuis 25 ans, vainqueur d'un prix du prestigieux World Press Photo en 2022, a voulu montrer dans les allées de la Fondation H la partie artistique de son travail. Dans la nuit porte la lumière, le titre de son exposition. Riza Soul explore l'invisible, la vie vibrante, la nuit et les contradictions de son peuple. Il nous en parle avec Ouda Ibrahim.
Riza Soul, bonjour.
Bonjour Ouda.
Vous photographiez d'abord parce que vous sentez cette nécessité de fixer les choses. C'est pour capter l'éphémère que vous cliquez sur le déclencheur?
Bah, comme tout photographe, notre mission, c'est de capturer l'instant, d'arrêter le temps, ce temps qui défile trop vite pour nous. C'est notre avantage en tant que photographe, c'est vraiment de pouvoir capturer le temps, de le saisir pour qu'il puisse servir à mémoriser l'état du monde. C'est ça qui me plaît justement dans le fait de déclencher, d'appuyer sur le déclencheur.
Actuellement, à Paris, vous exposez, dans votre travail artistique, vous privilégiez la nuit. Elle est votre terrain de prédilection. Pour quelles raisons?
Ce que j'aime dans le fait de déambuler la nuit, de faire des photographies la nuit, c'est de pouvoir saisir des choses, des situations, photographier des gens qu'on ne voit pas forcément le jour. Il y a une population de noctambules qui préfèrent vivre la nuit et dormir le jour. Et c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir témoigner de ce qui se passe à Madagascar, la nuit, sous tous ses aspects, les aspects les plus poétiques comme les aspects des fois les plus trash.
Les photos exposées démontrent une partie intime, plus personnelle de votre travail. Ces photos ont été prises en marge de vos reportages. Elles transmettent une ambiance, une certaine atmosphère. À travers ces photos, vouliez-vous raconter des histoires?
Pour le coup, concernant l'exposition « La nuit porte la lumière », je ne voulais pas forcément raconter des histoires. C'est vrai que ma formation est liée à la photographie documentaire. Je suis un photographe documentaire, un photojournaliste. Je suis formé pour raconter des histoires, pour témoigner de ce qui se passe dans mon pays, Madagascar. Mais pour cette exposition-là, j'avais vraiment plutôt envie de juste arrêter le temps et que les gens prennent le temps justement de poser un regard poétique sur Madagascar sans qu'il n'y ait de jugement, sans a priori, sans qu'il y ait de raison de vouloir expliquer les choses.
Raconter l'intime est-il plus difficile pour vous?
Alors, je crois que ce n'est pas tellement difficile de raconter son intimité, pour autant qu'on accepte de raconter son intimité, pour autant qu'on n'ait pas trop de pudeur. Je crois que c'est plus difficile d'être journaliste comme je le suis, de devoir témoigner avec objectivité de ce qui se passe, des problématiques sociales, culturelles et économiques de Madagascar. C'est assez compliqué, je trouve. Mais j'adore faire ça aussi. Mais pour moi, parler de l'intimité, parler de ce que je vois, de comment je vis. Et la photographie est un médium formidable pour pouvoir raconter sa vie, raconter l'intime dans sa vie personnelle.
À Paris, vous exposez la vie, la beauté, les gestes fugaces, la nuit. Et beaucoup de vos photos sont en noir et blanc. Pourquoi avoir opté pour ce choix ?
En fait, j'ai commencé la photographie il y a 25 ans maintenant, et en installant un laboratoire argentique, en utilisant des films argentiques noirs et blancs, parce que c'était plus facile de pouvoir développer soi-même et tirer ses photos. Et du coup, le noir et blanc est devenu ma façon de voir le monde. En fait, finalement, c'est devenu mon sacerdoce en tant que photographe. Le noir et blanc, pour moi, encore une fois, plus poétique, je trouve. Pour moi, c'est la photographie, quoi. C'est rendre les choses abstraites.
Votre esthétique est toujours basée sur le réel, mais avec un penchant indéniable pour la poésie. Qui sont les photographes qui vous ont nourri ?
Alors, j'ai été plutôt influencé par, on va dire, des photographes documentaires, c'est vrai. Et surtout des photographes qui aiment déambuler. Je pense notamment à ce photographe français d'origine slovène qui s'appelle Claudio Sluban, qui a beaucoup photographié les Balkans, l'Europe de l'Est. Et j'aime cette façon de travailler en noir et blanc, où on s'attache à un sujet, mais sans pour autant vouloir dénoncer quelque chose. On est là juste avec son appareil photo et on capte des moments de vie. J'aime les photographes documentaires aussi, qui sont dans l'intimité, comme Antoine d'Agata, voilà, qui photographie tous ses penchants, ses addictions, qui parle de sa vie, en fait. J'aime beaucoup ce genre de photographie. Ce sont ce genre de photographies qui m'ont beaucoup influencé à mes débuts de photographe et jusqu'à maintenant, d'ailleurs.
Ritz Assoul, merci.
Le photographe Ritz Assoul, invité RFI Matin de Ouda Ibrahim, et son exposition La nuit porte la lumière est à voir à Paris.
RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM. Pointe-au-Sel, 103.2 FM.
L'actualité des médias. Bonjour Amaury de Rochegonde.
Bonjour Julien.
On parle aujourd'hui de l'Argentine, du président Javier Milei, qui fait face à sa troisième grève générale et qui assume une forme de trumpisation face aux médias.
Oui, on a tous en tête la tronçonneuse de Javier Milei, symbole de coupe sombre dans les dépenses publiques. Eh bien, cette tronçonneuse a été offerte à Elon Musk, qui n'a pas manqué de la brandir à son tour. Entre Trump et Milei, il y a plus que des affinités idéologiques, même volonté de dérégulation, même tendance anti-woke et climato-sceptique, même défiance envers les organismes internationaux et les consensus scientifiques, comme le prouve la sortie des deux pays de l'OMS. Depuis l'investiture de son homologue au Capitole où il était présent, l'Argentin multiplie les signes de soutien. Il dit même comprendre le relèvement des tarifs douaniers que l'Argentine va pourtant subir en tant que membre du Mercosur. Et s'il n'a pas arrêté le financement de Voice of America, décision d'ailleurs suspendue par la justice américaine cette semaine, il a fermé TELAM, l'agence de presse nationale.
Et Reporters sans frontières a émis un droit d'alerte sur l'Argentine.
Oui, alors on ne peut pas dire que ce pays soit une priorité pour l'ONG. Ce n'est que le 66e pays sur 180 et la liberté de la presse y est à peu près respectée, notamment quand il s'agit de couvrir des manifestations ou des grèves générales. Mais il y a des signes inquiétant, alors que l'Argentine était à la 40e place en 2023, juste avant l'élection de Milei. D'abord, comme Trump, le chef d'État argentin a tendance à insulter et à stigmatiser les journalistes ou à les traiter d'ennemis, ce qui favorise l'agressivité de la police. Ensuite, il a levé les dernières barrières anti-concentration qui s'imposaient aux grands groupes médias, qui peuvent désormais acquérir autant de licences de télé ou de radio qu'ils le souhaitent, ce qui ne peut que renforcer la propriété autour de groupes comme Clarine ou la chaîne Téléfé.
Et les médias publics sont aussi dans le collimateur.
Oh, il s'agit bien sûr de revoir leurs dépenses à la baisse, mais cela se traduit par des licenciements et des budgets de programmes décimés, comme on a pu le voir sur Canal Siete ou la Radio Nationale. Et puis, il y a ce qui ne relève pas que du symbolique. C'est la destruction de ce monument en Patagonie à la gloire du journaliste anarchiste Osvaldo Bayer, connu pour avoir enquêté sur les mouvements sociaux et la répression de 2000 travailleurs pendant la dictature de 1976 à 1983. Une destruction qui s'accompagne d'un révisionnisme de Milei censé lutter contre une hégémonie culturelle de la gauche. Pour lui, il n'y a pas eu 30 000 disparus pendant la dictature, mais 4 fois moins, une réécriture de l'histoire qui signe une filiation avec l'extrême droite.
Amaury de Rochegonde, merci beaucoup.
L'épopée des musiques noires.
Chef d'orchestre de renom, le pianiste Richard Payne, originaire de l'île de Sainte-Lucie, veut donner de l'éclat à toutes les couleurs culturelles des Caraïbes. Il a donc invité pour son nouvel album des instrumentistes chevronnés dont les racines haïtiennes, cubaines, guadeloupéennes et martiniquaises ont magnifié son répertoire. Joe Farmer a assisté à sa genèse en studio, à découvrir dans l'épopée des musiques noires, tout à l'heure à 13h30 TU.
RFI, en sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Xavier Leclerc pour Le pain des Français. Né Aït Taleb en Algérie, il change de patronyme en France pour survivre, tout en creusant son sillon littéraire autour de l'histoire coloniale. Rendez-vous dans les souterrains du Musée de l'Homme, qui y conserve des crânes indigènes.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.